prendre ensemble la Sainte Cène, ce repas que le Seigneur a demandé qu'on puisse faire en mémoire de lui. C'est le rappel, c'est sûr, du dernier souper ou la dernière Pâque qu'il a mangé avec ses disciples, qui était un rappel aussi de la sortie d'Égypte. On se rappelle que la sortie d'Égypte, c'est l'ombre de la vraie sortie du monde. La vraie délivrance du Pharaon de ce monde se fait par Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il faut se rappeler qu'en mangeant ce pain et en buvant cette coupe, on pourrait dire que c'est un symbole qui fait qu'on remercie le Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Paul rappelait aux Corinthiens qui, malheureusement, méprisaient le corps de Christ. Maintenant, ce n'était pas une question ici de mépriser le pain ou la coupe. Ils méprisaient les gens, les sauver. Et donc, avant de prendre la Sainte-Cène, j'aimerais qu'on puisse lire le texte dans 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 17. « En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas, l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et y boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. » Donc, on voit ici, Paul est en train de montrer finalement le danger dans l'Église de rester encore dans une justice qui n'est pas celle qu'on reçoit par imputation. La justice propre de chacun d'entre nous doit être mise aux poubelles. En d'autres termes, faites attention de mépriser les autres au nom de votre éducation, de votre statut social, de votre groupe d'âge. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent donner aux gens de mépriser. On est rassemblés en son nom. On est finalement justifié par sa justice, car lui est mort de nos péchés. Et donc, c'est très, très important qu'on puisse toujours faire très attention de ne pas avoir de mépris dans l'Église. Donc, de ne pas avoir des gens qui pensent que, les vieux s'en débarrassent, ne sont pas rentables. Le Seigneur, finalement, nous regarde à tous les jours. Rappelez-vous, quand le Seigneur, finalement, nous a donné de la valeur, ce n'est pas qu'il a trouvé dans l'être humain qu'on aurait de la valeur en soi. La valeur que Dieu nous accorde, c'est qu'il a décidé, lui, de nous donner un statut particulier. Donc, les gens qui cherchent à devenir quelqu'un n'ont pas compris du tout la base sur laquelle le Seigneur nous reçoit. Et inévitablement, comment ton frère et ta sœur ont été aussi reçus. Donc, c'est pour ça que Paul dit, il y a un jugement dans votre Église. Et puis, c'était sûrement les gens très capables, les riches, parce qu'à l'époque, il y avait des esclaves. Et malheureusement, souvent, les esclaves devaient être les derniers arrivés à l'Église ou les pauvres. Et puis, finalement, les riches avaient amené leur propre repas, puis ils mangeaient et festoyaient au point que même dans l'Église, il y en a qui étaient ivres. C'est incroyable! Maintenant, Paul le rappelle, ce repas, c'est en vue de vous rappeler ce que Christ a fait pour vous à la croix du calvaire. Son corps a été rompu pour nous. Son sang, c'est donc, en d'autres mots, il a donné sa vie pour notre rédemption. Donc, c'est un repas de remerciement, de reconnaissance envers le Seigneur. Donc, on va le remercier. Seigneur, avant de prendre ce pain qui représente, Seigneur Dieu, ton corps, qui a été rompu, brisé, Seigneur, merci énormément. Parce que, Seigneur Dieu, tu es venu vaincre pour nous l'ennemi le plus foudroyant, le plus dangereux, la mort. Tu es venu frapper, Seigneur Dieu, profondément, et vaincre notre adversaire le plus grand, le diable lui-même, l'accusateur des frères. Celui justement qui stimule pour provoquer les divisions dans le monde et même dans l'Église. Le diable stimule la justice propre de chacun afin qu'on devienne orgueilleux de nous-mêmes. Plutôt que d'être dans l'humilité et d'être reconnaissant de la justice que tu nous accordes. Car avant de nous accorder ta justice, Seigneur, te payer pour nos péchés, te payer pour nos dettes. Fait que s'il vous plaît, Père, continue à illuminer notre entendement, renouvelle notre intelligence, délivre-nous de cette justice qui est d'origine méchante, car elle est souvent sur cette base qu'on se distingue des autres, qu'on méprise les autres. Que dans ton corps, dans l'Assemblée, Seigneur Dieu, qu'on puisse avoir, encore une fois, cette reconnaissance, comment tu nous as aimés et tu nous as donné ce commandement. Maintenant, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors merci Seigneur Dieu d'avoir donné ta vie pour nous et de nous avoir sauvés. On peut prendre le pain. Et Seigneur, tu dis que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Seigneur, merci que cette coupe représente ta vie que tu as donnée pour nous. Tu nous as, Seigneur Dieu, sauvés par ta mort et ressuscité le troisième jour pour montrer que la dette a réellement été payée. La nouvelle création est inaugurée par ta résurrection, Seigneur Jésus. Si nous, on est encore dans un monde d'ombre, de l'ombre des choses qui vont venir. Mais Seigneur Dieu, que cette coupe nous rappelle que ceux qui ont mis leur confiance en toi, dans ta mort à la croix pour nos péchés, à cause de nos fautes, bien, Seigneur Dieu, tu nous invites maintenant à la nouvelle création. Merci Seigneur Dieu pour cette coupe qui représente le pardon de nos péchés. Et Seigneur Dieu, merci de nous pardonner nos fautes, nos péchés, nos offenses. Et en retour aussi, comme tu dis, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à accorder le pardon à ceux qui nous ont blessés, offensés. Mais en même temps, Père, accorde-nous la sagesse pour savoir comment gérer les relations après, afin qu'on ne soit pas simplement des gens qui marchent aveuglément, mais au contraire, accorde-nous ta lumière des Écritures. Instruis-nous, Seigneur. Et surtout cette phase du fameux pardon et des relations. Car trop souvent, des gens qui demandent pardon veulent avoir les mêmes privilèges qu'ils avaient avant. Ce n'est pas ce que ta parole nous enseigne. Alors, s'il vous plaît, Père, viens à notre secours, délivre-nous de notre ignorance, continue à nous enseigner, afin qu'on puisse être des témoins sages et bien éclairés sur la base de ton pardon, Père, que par Jésus-Christ. Merci. On peut prendre la coupe. En tout cas, que le Seigneur puisse venir continuellement nous enseigner, nous instruire. Parce que si on ne reçoit pas l'instruction de sa parole, un peu à tous les jours, et quand on se rend compte ensemble, de savoir aussi comment s'édifier les uns les autres. Et c'est intéressant de voir cette expression « édifiez-vous », se bâtir, ça suppose une chose. Si on ne fait pas attention, si on manque de sagesse, et surtout, la sagesse vient de l'amour. Quelqu'un qui veut prendre le temps d'aimer l'autre, je ne parle pas ici de désirer l'autre pour prendre, aimer comme le Seigneur nous a aimés. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est de vouloir connaître. Pas juste se faire connaître. Pas séduire. Pas réclamer. Mais l'amour véritable de Dieu est à l'origine, je suis convaincu. Ça nous rend plus intelligents. Quand on prend le temps de vouloir connaître quelqu'un, d'observer la personne, de l'écouter avec intérêt, inévitablement, on reçoit plus de lumière pour réajuster continuellement nos relations les uns envers les autres. Et l'amour dont le Seigneur nous commande de nous aimer, c'est un amour qui donne, ce n'est pas un amour qui réclame. que le Seigneur vienne à notre secours là-dessus et qu'il continue à nous enseigner. Parce qu'on est dans une époque, j'ai l'impression, où est-ce que les gens réclament. C'est incroyable, on vit dans un temps où tout le monde parle et crie au nom de ses droits. Donc aujourd'hui, on va continuer dans l'Épître aux Hébreux. On est encore dans la première section de cette épître, cette section qui parle de la parole qui a été communiquée par les anges et comment la parole de Jésus-Christ est supérieure à celle des anges. En d'autres mots, la parole ici qui est dit qui a été communiquée par les anges souligne l'ancienne alliance. Et Jésus-Christ a inauguré, lui, la nouvelle alliance. Quand on a pris la Sainte Cène, le Seigneur dit, c'est l'alliance qui est faite en mon sang. Et donc, ça nous rappelle ici qu'il a donné sa vie pour inaugurer cette nouvelle alliance. C'est lui, le dernier Adam. Il n'y a plus rien à espérer depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ au niveau du monde. On peut améliorer des situations, mais améliorer ne veut pas dire que ça va changer le monde. Les gens qui espèrent et qui rêvent de faire descendre le royaume de Dieu sur terre, vous vous trompez. Vous allez voir dans l'Épître aux Hébreux, ce n'est pas du tout ce qu'on doit vivre. On peut améliorer des situations. On peut contribuer à la grâce commune. On annonce par contre un seul message, l'œuvre de Jésus-Christ pour nous à la croix est le seul moyen de sortir vivant de cette vie. Car encore une fois, même notre mort physique est l'ombre de la véritable mort qui attend les gens qui n'auront pas rencontré la vie. Rencontrer Jésus-Christ, c'est rencontrer la vie. C'est lui la vie. La vie est venue carrément sur terre. Jésus l'a dit. Vous vous rappelez, avant de ressusciter Lazare, il l'a dit, il était la vie. Il est, lui, la résurrection. Et quand il parle le Seigneur, il en fait une démonstration. Il a démontré qu'il était véritablement la vie, car juste sur sa parole, et Dieu seul peut parler comme ça. Dieu s'est fait humain en Jésus-Christ. Quand il a parlé en disant « Lazare, sort », eh bien, Lazare est revenu à la vie. Il a quasiment eu aussi, non seulement un retour à la vie, mais une recréation, car cet homme sentait la décomposition. Il y a une forme de recréation en lui, temporaire, car il a dû mourir une deuxième fois. Mais Lazare a été délivré de la vraie mort, qui est la seconde mort qui s'en vient. C'est pour ça que l'auteur nous rappelle ici, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Donc, on va demander au Seigneur qu'il puisse encore une fois nous guider et nous enseigner par sa parole. Seigneur, viens à notre secours, afin que ce ne soit pas juste de l'information biblique qu'on entende, ou juste, Seigneur Dieu, de l'encouragement psychique. Seigneur, je te demande que ça soit, tu puisses utiliser ta parole pour parler à nos cœurs. Car quand toi, tu parles, Seigneur Dieu, quand tu nous parles, comme Jean le dit dans sa lettre, quand l'onction nous enseigne, quand toi, Saint-Esprit de Dieu, tu nous enseignes, c'est plus que de l'information, c'est de la vie. C'est de la vie. C'est la vérité dans un monde de mensonges. S'il vous plaît, Père, viens à notre secours et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié en nous rendant plus intelligents. Renouvelle notre intelligence. Viens à notre secours. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de la connaissance de la volonté de Dieu, comme Paul l'écrivait aux Colossiens. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, ça vient de toi, Saint-Esprit. Et comme il est dit dans les psaumes, enseigne-nous ta volonté. Montre-nous comment y marcher. Enseigne-nous, Seigneur Dieu, s'il vous plaît, Père. Et merci d'avance, car tu dis, si on demande quelque chose selon ta volonté, on va l'avoir. Donc, c'est ta volonté, Seigneur Dieu, d'être enseigné et d'être rempli de la connaissance de ta volonté. Merci d'avance, mon Dieu, dans le précieux nom de Jésus. Merci beaucoup. OK, donc, si on revient à l'Épître aux Hébreux, on a vu ici que l'auteur avait commencé dans cette première section qui commence ici au verset 5 du chapitre 1. Son introduction nous donnait finalement les points centraux qui était pour développer dans toute son épître. Maintenant, à partir du verset 5 jusqu'au verset 14, il va faire un exposé par rapport aux anges et à Jésus, le Fils unique de Dieu. On va juste le relire pour se remettre dans le contexte. « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Et encore, « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont... Tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, si on voit ici la description qu'il fait, il met en contraste les anges et Jésus. Maintenant, pourquoi l'auteur commence avec les anges? Parce que, comme on se rappelle, dans l'Ancienne Alliance, les intermédiaires qui venaient vers nous sont toujours appelés, c'est toujours fait par des anges. Que ce soit sur le Sinaï, que ce soit le buisson ardent, et même le Seigneur, Dieu, nous visitait dans la forme d'ange. Il venait sous la forme de l'ange de l'Éternel, comme on a vu la dernière fois. Mais maintenant, il le contraste parce qu'en même temps, les anges sont appelés dans certaines sections des Écritures des fils de Dieu, par exemple dans Job. Ou même Adam, quand Luc fait la description de sa généalogie en partant de Jésus jusqu'à Adam, il finit « Adam, fils de Dieu ». Maintenant, on est fils de Dieu au niveau d'être créé par Dieu. Mais ici, c'est le fils unique, l'unique engendré du Père. Et comme on a vu, comme un auteur le rappelait, Dieu parle humain. Et il prend finalement dans notre langage humain ce qui pourrait le mieux illustrer. Encore une fois, qu'est-ce qu'on entend par « engendrer » ? Il n'a pas été engendré une fois pour toutes. Il est éternellement jaillissant, engendré continuellement. C'est incompréhensible pour nous. Mais « engendrer », comme on l'avait vu la dernière fois, eh bien, c'est beaucoup plus riche que, par exemple, je ne sais pas moi, ce bâtiment ici, là, il a été construit par quelqu'un. Mais ce n'est pas le quelqu'un, ça, ici. C'est le bâtiment que quelqu'un a bâti. Par contre, quand on engendre un enfant, c'est du vous. Et donc, c'est pour ça que dans le langage humain, il est décrit l'éternel engendré du Père. Nous, on est une créature, c'est comme le bâtiment. Le Seigneur, lui, il est un engendré. Donc, c'est une image vraiment très forte. Mais n'oubliez pas, il parle humain de manière condescendante vers nous, parce que finalement, comment l'éternité peut parler à du fini? Comment, je ne sais pas moi, l'infinité de tout Dieu, il est comme indescriptible, parle à des petits êtres, et donc Dieu nous parle dans notre langage. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas le prendre littéralement, humainement, mais l'image qui est employée, pour qu'on puisse comprendre. Par exemple, quand on parle des subsistances, les trois personnes de la Trinité, nous, dans notre tête, trois personnes, bien, c'est trois personnes distinctes, c'est trois personnes. Mais il y a un seul Dieu, et pourtant, il se distingue sans division. Donc, ça, c'est le mystère de la Trinité. Mais encore une fois, c'est dans des mots humains, parce que Dieu parle humain. Mais encore une fois, il faut se rappeler, c'est selon les Écritures. Jésus vient du Père. Les anges sont la création de Dieu. Et c'est pour ça que le Fils, ici dans le premier point, il est cité comme étant « Je t'ai engendré aujourd'hui ». N'oubliez pas, Dieu, il est continuellement dans un « Je suis ». Non pas « J'étais », ni il sera. Même l'apôtre Jean, vous vous rappelez dans l'Apocalypse quand il dit il bénit celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Il ne dit pas celui qui sera. Dieu ne sera pas, il est. Donc, quand il parle du futur de Dieu, c'est qu'il vient. Ici, dans le contexte, il est engendré aujourd'hui. Et quand il parle ici de cette déclaration, « Je serai pour lui un père, un fils », c'était la déclaration qui s'adressait vers Salomon. Mais que ce soit David ou que ce soit Salomon ou que ce soit n'importe qui, ils ne sont que l'ombre du véritable. Vous vous rappelez quand Jésus avait dit un jour, « Il y a ici plus que Salomon ». Bien, il parlait de lui. Et Jésus ne se vantait pas de manière orgueilleuse comme beaucoup de gens peuvent être des prétentieux aujourd'hui. Il disait la vérité à son sujet. Donc, après ça, il dit que, même plus loin dans les Écritures, que tous les anges de Dieu l'adorent. Dans les Écritures, la parole nous rappelle que Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. Alors, si Dieu commande aux anges, ces êtres célestes créés, d'adorer le Fils, c'est qu'il est Dieu de Dieu, lumière de lumière, l'engendré du Père. Et puis, c'est pour ça qu'il continue lorsqu'il dit un autre passage, « Ton trône, lorsqu'il parle au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. » Un ange ne peut pas avoir même un siège éternel. Il y a un commencement pour les anges. C'est sûr qu'ils sont peut-être même avant la création du monde physique, car dans Job, le livre de Job, il semble que les anges étaient présents lorsque Dieu a créé le monde dans lequel nous sommes. Et ils ont éclaté de joie en voyant le spectacle que c'était. Donc, ils ont eux aussi un commencement. Mais contrairement aux anges, l'autre passage un peu plus loin, un autre psaume, c'est beaucoup dans les psaumes qu'il va chercher ça. Il dit, « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. » Il parle toujours du Fils. Donc, il est créateur. Donc, si Jésus-Christ a tout créé, eh bien, c'est qu'il est Dieu. Il n'est pas créé, il est créateur. Et donc, on voit tous ces passages pour souligner la distinction entre lui et les anges. Parce qu'oubliez pas, toute l'Ancienne Alliance, elle a été faite, inaugurée sans arrêt par des anges. Des anges sont venus instruire des hommes. On pense à, je ne sais pas, Gabriel, par exemple, qui est venu aider Daniel à comprendre la vision. Ou encore Michel, l'archange, qui doit finalement protéger Israël. Donc, c'est pour ça que l'auteur nous dit, faites attention, il ne dénigre pas la parole des anges. Pas du tout, il n'est pas en train de dire que c'était des niaiseries qu'ils ont dit. Au contraire, il dit, si leur parole de l'Ancienne Alliance a eu des conséquences si on a désobéi, comment ce serait encore plus grave si on désobéit ou on néglige la parole donnée par le Fils? Le Seigneur dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, c'est vraiment pour vous montrer toute l'importance de la parole de Jésus-Christ, l'importance de l'incarnation, l'importance de son œuvre à lui, spécialement à la croix, lorsqu'il donne sa vie pour nous, pour vaincre, comme il va le montrer juste un petit peu plus loin, le vrai ennemi. Satan, c'est un mot hébreu qui veut dire d'abord et avant tout « ennemi ». Et c'est devenu quasiment un nom propre, là, mais en réalité, c'est un générique pour parler de l'ennemi. Et qu'est-ce que l'ennemi se sert pour réclamer notre mort devant Dieu? La loi, il prend la loi même de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi. Il est venu parfaitement l'accomplir et racheter tous ceux qui ont tous désobéi. Parce que tout ce qui est né de la chair, tout ce qui est né d'Adam est dans les conséquences d'Adam. Tout ce qui est né de nouveau est dans les bénéfices de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation, pas à cause de notre propre comportement seulement, à cause qu'on est dans un nouveau statut en Jésus-Christ. De la même manière, vous pouvez avoir des bonnes personnes. Regardez, les gens ne meurent pas nécessairement de leur péché. Vous vous rappelez finalement lorsque les apôtres étaient avec Jésus et puis ils ont demandé... Qui a péché, c'est la conséquence de qui que cet homme soit aveugle. Et puis le Seigneur le rappelle, ça n'a rien à voir avec ses parents ou lui. Il est aveugle pour la gloire de Dieu. En d'autres mots, Dieu va se servir de lui, le Seigneur va se servir de lui pour montrer que Jésus est la lumière du monde. C'est quoi le problème d'un aveugle? Eh bien, c'est qu'il n'est pas capable de la voir, la lumière. Et Jésus a rendu manifeste que le monde dans lequel il est venu est dans les ténèbres. C'est lui la lumière. Et c'est pour ça que dans un psaume, il nous est rappelé que la parole de Dieu est une lumière dans notre sentier. Mais en même temps, dans un autre psaume, il nous est rappelé, comme on l'avait vu, que par ta lumière, nous voyons la lumière. Par Jésus-Christ, on va mieux comprendre maintenant toutes les images, tout l'ombre de l'Ancien Testament, pour qu'on puisse mieux comprendre. Le vrai temple, c'est Jésus. Le vrai temple, maintenant, c'est tous les croyants qui sont des pierres vivantes rassemblées ensemble pour être l'habitation pour l'Esprit de Dieu dans ce monde. Et c'est pour ça que la volonté de Dieu, maintenant, pour nous, c'est notre mise à part, notre sanctification, afin de marcher d'une manière digne de la vocation qui nous est adressée. Donc, tout ça pour nous rappeler que le Seigneur est l'accomplissement. Et c'est pour ça qu'on néglige pas ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, mais c'est comme s'il dit, à plus forte raison, écoutez ce que Jésus a dit et fait. Donc, ça finit avec son exhortation, chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur Jésus, d'abord lui-même nous a annoncé ce salut, et nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, donc c'est les disciples ici, les apôtres, qui sont devenus des témoins, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc, ça résume encore une fois cette première partie du message. Maintenant, on va rentrer dans une compréhension, un autre exposé. Là, il va développer un autre exposé, qui est donc du verset 5 jusqu'au verset 18. Et après, il va en faire une application. Donc, on va lire finalement ces passages, puis on va commencer à y aller par étapes. Il dit, « En effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, « J'annoncerai ton nom à mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Car assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans tout ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Et après ça, au chapitre 3, il va commencer son exhortation suite à cet expo, l'exposé qu'il fait ici. Mais on revient juste pour commencer à comprendre la première partie. « En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. » Maintenant, quand on pense à ça ici, le monde à venir n'est pas destiné à être sous l'autorité des anges. Si on comprend bien, ça veut donc dire que présentement, le monde dans lequel nous vivons, quoique Jésus-Christ a triomphé et il est maintenant assis à la droite de Dieu, et que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel comme sur la terre, et qu'il dit ici que toutes choses lui sont soumises, même si on ne voit pas encore que toutes choses lui semblent être soumises. Donc, on peut conclure que nous sommes présentement dans un monde, comme nous sommes présentement dans un corps physique qui est généré de la première création. En d'autres mots, c'est pour ça que nous devons mourir de cette première création. Cette première création va être détruite, comme le Seigneur le dit. Et c'est pour ça que, inévitablement, nous marchons tous vers la mort physique. Maintenant, Paul nous rappelle dans ses lettres, l'Épître aux Éphésiens, entre autres, même aux Colossiens, mais entre autres aux Éphésiens, que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre. Et que malheureusement, trop souvent, au travers de l'histoire de l'Église, l'Église est tombée dans le panneau de combattre plus la chair que de réaliser d'où venait le vrai problème dans les lieux célestes, les trônes, les dignités, les puissances. Et si on ne comprend pas le vrai ministère que Dieu donne à l'Église, inévitablement, quelquefois, l'Église a glissé pour vouloir prendre la place de l'État, pour imposer le royaume de Dieu ici. Mais le monde à venir, ce n'est pas le monde présent. Il est appelé ici le monde à venir. Je pense que c'est assez compréhensible. Donc, nous sommes présentement dans le monde qui a été jugé par Dieu et qui est destiné à être détruit, comme il dit ici, ce monde va s'user, il va être roulé comme un vêtement et il va être changé. Et même nous, présentement, Paul nous rappelle que nous vivons présentement notre vie en Christ par la foi. C'est parce qu'on a confiance dans sa parole qu'on est capable de continuer à vivre cette vie nouvelle dans l'ancienne vie, parce qu'on a toujours ce corps de mort. Et plus on entre dans la lumière du Seigneur, plus on voit à quel point ce corps de la première création, ce qui est né de la chair, est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et c'est pour ça que Pierre nous rappelle que ça fait une petite tension entre les deux, et on doit sous-alimenter, si on peut prendre l'expression, la chair, pour alimenter, au fond, se fortifier dans l'homme nouveau. Maintenant, comment on désamorce la chair, comment on l'affaiblit? Bien, c'est surtout en la nourrissant pas de sa propre justice. Je sais que je suis fatigant de rappeler cette justice propre, mais est à l'origine de tellement de conflits. Si on n'avait pas notre propre justice, on n'aurait que la justice de Dieu. Et présentement, la justice de Dieu manifestée en Jésus-Christ, c'est la miséricorde, la grâce, la bonté et le pardon. Il nous envoie comme des ambassadeurs, pas pour aller juger le monde, mais pour aller annoncer une bonne nouvelle au monde afin que quiconque veut vienne. Et le Seigneur va les recevoir par Jésus-Christ. Comme Jean nous le rappelle, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le juger, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais pourquoi l'Église est tombée trop souvent, et même encore aujourd'hui, quand les temps deviennent difficiles, étranges? Je me rappelle Bonhoeffer, finalement, dans un de ses écrits d'éthique, eh bien, il rappelle que les temps mauvais, souvent, rendent les chrétiens mauvais. Parce que, des fois, plutôt que de continuer à répondre au Seigneur, on répond à un événement. Comment on va triompher du mal? Pas en faisant plus de mal au mal, mais en faisant du bien, de vaincre le mal par le bien. Mais ça, c'est par la foi qu'on va faire ça. Parce que pour beaucoup de gens qui ne sont pas habitués de marcher avec le Seigneur, parce que n'oubliez pas, dans l'Église, comme Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il dit, je ne peux pas vous parler comme à des adultes dans le Seigneur, je suis obligé de vous parler comme à des enfants. le manque de maturité chez les Corinthiens les faisait vivre finalement comme des hommes. Quand Paul prend cette expression, vous vivez comme des hommes, en d'autres mots, vous êtes comme encore des gens qui ont la mentalité du monde et non pas la nouvelle perspective du monde qui s'en vient. Et là, beaucoup de gens veulent prendre contrôle des situations plutôt que de réaliser que le contrôle de toute la situation a été donné à Jésus-Christ seul. Ça, c'est très important. Et notre rôle en tant qu'Église, c'est d'abord d'intercéder pour l'administration de ce monde et surtout de savoir intercéder pour protéger l'État contre les influences dans les lieux célestes. Et je sais que ça semble très abstrait pour beaucoup d'entre nous parce que notre culture est très mécanique. Et écoutez, honnêtement, la parole de Dieu va prendre sa puissance, sa force dans nos vies seulement si, comme il nous est dit un peu plus loin dans l'Épître aux Hébreux, et comme Paul le rappelle aussi quand il écrit aux Corinthiens, la parole de Dieu, le message de la bonne nouvelle, en d'autres mots, servit de rien au peuple qui est sorti d'Égypte parce qu'ils n'ont pas mêlé la foi à ce qu'ils avaient entendu. Quand on entend la parole de Dieu, on doit donner une réponse de la recevoir dans la foi. La foi veut dire « se manifeste par l'obéissance ». Donc, dans l'épreuve, c'est là que ma foi va germer pour passer d'une information à une connaissance de Dieu. L'épreuve, ce n'est pas quelque chose qui me rend meilleur par moi-même. L'épreuve, si je réussis à m'attendre au Seigneur sur la base de ses promesses, de ce que lui est pour nous dans l'épreuve, c'est là qu'on va pouvoir devenir témoin de sa fidélité, ce qui va fortifier notre foi, nous donner plus d'assurance subjectivement dans la présence de Dieu dans nos vies. Mais si on évite ça, puis on fait juste vivre une bonne petite vie morale, mais tu sais, on s'arrange pour, éviter sans arrêt toutes sortes de choses, vous allez accumuler beaucoup d'informations sur Dieu, peut-être. Surtout aujourd'hui, c'est très facile d'avoir de l'information biblique. Mais est-ce que vous avez la connaissance de Dieu? Êtes-vous capable de nous raconter comment vous avez fait confiance au Seigneur et comment il vous a délivré? Et est-ce que vous êtes un témoin ou simplement un perroquet d'informations? Donc, l'auteur nous rappelle que nous sommes présentement dans un monde qui a été jugé par le Seigneur. Et ça ne paraît pas encore que toute chose lui a été soumise. Et pourtant, il dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Nous sommes dans un monde, comme présentement dans ce corps, qui n'est pas au fond notre vrai corps, si on pourrait dire. Parce que ce corps vieillit, s'affaiblit et bientôt va mourir. Mais à la résurrection, le Seigneur nous promet un corps et voici l'illustration qu'il nous donne. C'est vraiment une bonne illustration. Il dit « On est présentement dans ce corps comme dans une tente. » Il y en a qui ont déjà fait du camping dans une tente. Tandis que le corps de résurrection sur la nouvelle terre de nouveaux cieux va être comme un édifice. Ça, c'est bien plus trippant. Je vous donne une petite histoire. On a été une fois en train de camper chez nos amis, finalement, à Wemont. On était au bord du lac, tu sais, du poisson blanc qu'on appelle. Là. Et puis, on avait toutes des tentes, puis beaucoup de gens du village étaient venus nous rejoindre. Puis, vraiment, on avait eu un super bel été. Tout le monde campait. Beaucoup de gens du village étaient venus nous rejoindre, dont Nassia, toutes sortes de monde. Bref. Et je me rappelle un soir, durant la nuit, je me réveille et j'entends des coups de feu, des coups de carabine, assez loin, tu sais, près du lac, là. Mais quand même, je me disais, « Wow! » Là, je suis dans une tente, je touchais la toile. Ça, c'est rien qu'une toile. S'il y a une balle perdue, je ne pense pas que la toile va arrêter à la balle. Bien, quand durant la nuit, j'entendais ça, tu sais, puis j'entendais des coups de feu, il y a un passage qui me revenait. Notre corps présent est une tente. Mais ce qui nous attend à la résurrection va être un édifice. Si je serais dans une maison comme un genre de château avec, tu sais, en grosse pierre, ben, il pourrait bien tirer des coups de carabine, ça cogne sa pierre puis ça tombe à terre. Par contre, dans une tente, ça risque d'être un peu plus désagréable. Présentement, nous vivons dans une tente. Mais la promesse que Dieu nous a faite, c'est que bientôt, on va hériter d'un édifice, le monde à venir. Arrêtons de penser, et surtout, tombons pas dans le panneau, que les évangiles nous montrent sans arrêt. Quand Jésus a fait une multiplication du pain, ce n'était pas juste pour nourrir les gens parce qu'ils avaient faim. C'est toujours pour faire une démonstration selon les Écritures de l'Ancien Testament, les promesses, l'ombre des choses à venir, qu'il est lui, le vrai pain descendu du ciel qui donne la vie. Mais les gens, là, souvent, ils vont dire, « Ah, soyons concrets, soyons concrets! » Ouais, il y a un autre mot qui vient dans ma tête par rapport à ça, là, mais c'est pas grave, je ne le dirai pas. C'est pas être concret. Parce que souvent, les gens veulent récupérer Jésus pour en faire le boulanger de leur vie de tous les jours. « Donne-moi mon pain à tous les jours » ou « Donne-moi toutes mes guérisons » « Donne-moi finalement de l'argent, donne-moi tout. » Le Seigneur dit, « Non, je ne suis pas venu finalement te donner une vie parfaite ici. Je suis venu finalement t'instruire pour que tu puisses réaliser qui je suis pour toi, d'abord. Deuxièmement, tu vas vivre comme étant avec moi. Et si, le Seigneur dit, ils m'ont rejeté, ils vont vous rejeter. Si ils m'auraient accepté, ils vont vous accepter. » Donc, on vit en son nom. Dans un monde où est-ce que, sagement, il faut apprendre à être sage. Comment on témoigne notre foi, comment on annonce l'Évangile, Paul nous le rappelle de le faire avec sagesse, avec discernement, avec amour. Donc, ça veut dire, prenez le temps de connaître à qui vous parlez. Et puis, soyons sages comment on va témoigner de notre foi. Mais, les résultats appartiennent au Seigneur. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de réaliser qu'on ne vit pas dans le monde qui doit être. Ce monde va passer. Donc, faites attention d'essayer de produire un monde et en pensant que, vu que le Seigneur a reçu tout pouvoir, l'Épître est clair ici. Il dit quoi? Que cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. On ne le voit pas encore, quoi qu'il est en charge de toute chose. Par contre, il vient d'inaugurer la nouvelle création lui-même. La nouvelle création est commencée par la résurrection de Jésus. C'est comme si le Seigneur est retourné dans sa gloire. En tant que fils de Dieu, ben, il est juste retourné dans la gloire éternelle qu'il avait depuis toujours. Mais il y a quelque chose de nouveau dans la présence de Dieu. Il n'y a pas juste le fils de Dieu, il y a le fils de l'homme. Jésus est assis sur le trône. Cette fameuse incarnation inaugure que le monde qui va être recréé est un monde qui va être soumis aux hommes. C'est pour ça, c'est un passage... Mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Vous savez, plus on est en train de s'éloigner du Seigneur dans notre culture, je remarque une chose étrange. Plus la vie humaine perd de sa valeur. Quoique dans un monde qui perd de sa valeur, l'être humain perd de sa valeur de plus en plus. La vie humaine va être de moins en moins protégée. Et au milieu de tout ça, l'égocentricité augmente de plus en plus. Tout l'esprit communautaire qui est une force est en train de se désagréger au nom que tout le monde veut vivre sa propre vie, bâtie sur ses propres droits, soutenue par sa propre justice, au point qu'on est devenu des adorateurs de nous-mêmes. Ça, c'est vraiment l'esprit du monde qui s'éloigne de plus en plus du Seigneur. Parce que notre vraie joie, ce n'est pas de faire sa propre volonté. Ça, c'est la joie du monde. Tout le monde veut devenir Dieu. Le diable avait dit, « Si vous mangez de ce fruit, Dieu sait très bien que vous allez devenir comme lui. » Il nous a menti, mais en même temps, il nous a bien trompés. On est devenus des obsédés de nous-mêmes, des adorateurs de nous-mêmes. Et c'est pour ça que l'Évangile, il faut vraiment l'œuvre du Saint-Esprit pour déchirer le voile, nous affranchir de cette phobie, de cette obsession, de cette idolâtrie incroyable de nous-mêmes. Et notre sanctification, c'est d'abandonner notre idolâtrie pour se tourner vers le Dieu vrai et vivant. Quand on prie, on parle d'un vrai Dieu vivant. On n'est pas en train de, je sais pas moi, on n'est pas dans un, je sais pas moi, de la pensée positive ou même, tu sais, cette parole niaiseuse quand on dit « j'envoie ça dans l'univers ». Et que c'est épais, ça n'a pas de bon sens, ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Donc, tout ça pour dire que le monde présent, c'est le monde qui pense. Et nous, maintenant, on doit apprendre que le monde d'aujourd'hui, contrairement à celui qui vient, est présentement sous des autorités dans les lieux célestes, angéliques. Et la Bible nous rappelle qu'une partie des anges qui se sont révoltés contre Dieu pour devenir des petits dieux, eux aussi. Et c'est ce qui contrôle le monde. Satan et beaucoup des principautés dans les lieux célestes de ténèbres. Et notre vraie guerre, elle est, il faut demander au Seigneur qu'il nous enseigne sa volonté. Parce que ce n'est pas quelque chose qui monte à notre esprit naturellement. Et je ne parle pas ici de superstition, ni de fétichisme. Non, non, je parle de que le Seigneur nous enseigne lui-même comment, par Jésus-Christ, au moyen de la parole, comment on peut développer de plus en plus, puis encore une fois, je remercie énormément Marc-André et aussi Denise, qui, de plus en plus, finalement, nous gardent bien allumés sur comment intercéder. D'abord, les besoins qu'on a les uns des autres, se soutenir dans la prière, mais aussi de continuer à apprendre à intercéder afin que l'Église soit une lumière dans le monde, un appui pour la vérité dans le monde. Est-ce qu'en sortant finalement de nos rencontres, est-ce que quand vous sortez de chez vous, on envoie un ambassadeur dans le monde? C'est ce que Paul dit que nous sommes. Nous sommes des voyageurs et des pèlerins. Donc, on n'est pas chez nous maintenant, ici, depuis qu'on est né de nouveau. Notre vrai chez nous, c'est dans la nouvelle création. Et entre-temps, si on meurt, on s'en va dans la maison que Jésus dit de son Père, jusqu'à ce qu'on revienne avec lui pour voir établir, après le jugement, la nouvelle terre et de nouveaux cieux, où là va habiter la justice pour toujours. Et ce prochain monde, comme il dit, il va être soumis aux êtres humains. Et notre roi des rois sera toujours le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il s'en vient vivre avec nous autres. Et imaginez, la deuxième personne de la Trinité, le Fils unique de Dieu, l'héritier de toutes choses, qui est le créateur de toutes choses, et pour qui toutes choses ont été faites pour lui, nous invite maintenant en disant, « Vous êtes maintenant mes frères et mes sœurs. » Est-ce que vous réalisez que le Fils unique de Dieu, il est devenu notre frère? Et donc, dans l'Église, il faut faire très attention, encore une fois, de vivre sur une autre base qui nous distingue les uns des autres. On est une famille maintenant. C'est pour ça qu'on est appelés des frères et des sœurs. Jésus n'a pas honte de nous appeler frères et sœurs. Pourquoi nous, on aurait honte de nos frères et de nos sœurs? C'est à cause d'une autre justice qui doit être détruite. Cette justice propre, démoniaque, sale, qui est pourrite, qui permet à des gens de faire le mal. C'est fou parce que à toutes les fois que quelqu'un fait le mal, avant de reconnaître le mal qu'il a fait, c'est incroyable. Avez-vous remarqué qu'on donne toujours des raisons pourquoi on a fait le mal? C'est pas malade, ça? Ça montre finalement qu'il n'y a jamais de raison pour le mal. Mais si vous donnez des explications pourquoi vous avez fait le mal, vous avez, jusqu'à un certain point, justifié, rendu juste le mal que vous avez fait. « Ah non, quelqu'un va dire, « Bien, j'ai trompé ma femme parce qu'elle n'était pas assez fine. » Ce n'est pas une raison. Tu as trompé, finalement, l'alliance que tu as faite devant Dieu. Un autre dit, « Non, non, j'ai volé un tel parce qu'il est riche, et puis écoute, moi, là, je mérite mieux que ça, tu sais. » Tu es pourri, chum. D'autres qui vont mentir, d'autres qui vont être violents. Et c'est fou comment les gens ont toujours une raison. Le Seigneur veut détruire cette justice propre qui fournit des raisons pour qu'on fait le mal. C'est ça de mortifier la chair. Il faut que notre justice propre soit détruite de plus en plus, afin que dans l'humilité c'est de reconnaître notre pauvreté, c'est de reconnaître la réalité comme Dieu l'éclaire. Sortant des ténèbres où on s'imagine un monde fait sur mesure dans notre tête, pour entrer dans sa lumière, dans la lumière de Christ. La lumière de la loi nous éclaire. Il y a trop de gens qui veulent enlever complètement la loi de Dieu. La loi sert à mettre une lumière sur la condition. Voici ce qui doit être. Et maintenant, c'est pour ça qu'on rend grâce, comme on a fait en prenant la Sainte Cène, on rend grâce au Seigneur qui est venu. Il est venu comme un Adam. Il est venu comme étant le dernier Adam. Il n'y a plus rien qui va s'ajouter. Il n'y aura plus aucune nouvelle révélation qui va s'ajouter. Il n'y aura rien de nouveau qui va s'ajouter. Au moment où Christ s'est incarné, la réalité est arrivée de l'ombre des choses de l'Ancien Testament qui était promis. Le véritable est arrivé. Et il a tout accompli. Et quand il est mort, dans les dernières paroles qu'il a dit à la croix, maintenant, tout est accompli. Il ne reste qu'une seule chose maintenant pour venir participer puis d'avoir l'espérance que vous allez participer à cette nouvelle création. Vous devez mêler la foi à ce que vous entendez. prendre très au sérieux la parole de Christ. Essayez de pas de produire en vous la foi. Venez à Dieu tel que vous êtes. Reconnaissez ce que vous êtes, des idolâtres de vous-même. Peut-être qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais moi, j'aime pas Dieu, moi, j'aime pas la religion, moi, j'aime pas ça. » Parfait. Viens devant Dieu et dis-lui clairement à quel point tu es pourri. Premier commandement, tu es supposé aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et lui seul que tu vas servir. Bien, si tu réalises que tu n'es pas ça du tout, et la plupart d'entre nous, on n'est pas ça, eh bien, on vient au Seigneur en disant « Tu as raison, toi seul peux me sauver. Je suis condamnable. Je suis un adorateur de moi-même au point qu'il n'y a même plus de place dans ma tête pour toi. Je suis tellement occupé pour moi qu'il n'y a plus de place pour toi dans mes activités humaines. Je suis tellement occupé à me faire plaisir qu'il ne me reste plus de temps ni d'argent pour pouvoir aider et entrer dans ton œuvre. Au contraire, je veux même t'absorber dans ma vie pour me rendre plus prospère. » Puis, tu sais, le Seigneur dit, « OK, si je rentre dans ta vie, je risque de faire le ménage. Attache ta tuque, mon homme, ça va se déplacer pas à peu près. » Et donc, c'est pour ça que, encore une fois, l'auteur nous dit, le monde qui s'en vient, donc ça veut dire le monde dans lequel on est aujourd'hui, il est encore une fois sous des autorités dans les lieux célestes. Et l'Église seule a reçu par Jésus-Christ le mandat de pouvoir venir intercéder pour combattre des influences qui sont très invisibles. Je sais que ça paraît très abstrait pour des gens qui sont très mécaniques, mais c'est la réalité que la parole de Dieu nous enseigne. Ce n'est pas contre la chair et le sang que vous avez à combattre, mais contre les principautés, les trônes, les dignités, les dominations dans les lieux célestes. Que Dieu nous apprenne à intercéder, que Dieu nous apprenne à être vraiment efficace comme Église dans un domaine qui semble très abstrait dans notre culture, mais qui est extrêmement concret. Que le Seigneur nous accorde de pouvoir marcher avec lui et qu'on puisse le supplier, intercéder auprès de lui afin qu'il accorde à notre pays un vrai réveil. Pas pour qu'on en fasse un pays chrétien, mais pour qu'une multitude de gens se détournent des ténèbres et trouvent la véritable lumière, puissent être délivrés de la mort pour être trouvés dans la véritable vie, pour être délivrés du monde qui va passer, pour être maintenant invités sur la nouvelle terre de nouveaux cieux. Parce qu'oubliez pas, une vie, c'est vite passé. Et il n'y a pas d'âge pour mourir. Et on ne meurt pas juste à cause de nos fautes personnelles. Un petit bébé peut carrément se faire tuer par des gens qui ont décidé de finir leur sous-sol ou encore leur carrière. On fait des sacrifices humains aujourd'hui. Cet enfant-là, il est mort à cause qu'il est né dans la manière adamique. Mais je suis content de savoir une chose. Jésus-Christ a extrêmement compassion des faibles, même si notre monde est très dur et méchant envers les faibles. Les riches, les forts, les grands veulent avoir toute leur vie qu'à eux. Et tassez-vous quand ils arrivent. Mais Jésus-Christ il dit, à mon peuple, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Que le Seigneur nous remplisse de son esprit, que la parole s'illumine en nous, afin qu'on puisse continuer à réaliser dans quel monde nous vivons, qui va passer, et l'espérance incroyable que nous avons dans celui qui s'en vient. Que le Seigneur bénisse votre semaine abondamment et que le Seigneur continue à venir à notre secours. Seigneur, toi seul peux éclairer les profondeurs de notre être. Même nous, Seigneur Dieu, souvent on se perd en nous-mêmes. Qui connaît ses propres égarements? Mais toi, Seigneur Dieu, rien n'est caché à toi. Alors, s'il vous plaît, Père, continue à nous sonder pour voir, comme il est dit dans la parole, si on marche sur le chemin qui mène à la vie. Et Seigneur Dieu, s'il vous plaît, renouvelle-nous continuellement dans nos forces, dans notre joie, car la joie du Seigneur est notre force. Renouvelle-nous aussi au niveau de l'intelligence afin qu'on puisse vraiment savoir comment marcher avec toi, simplement et à tous les jours, en dépendance de toi. Car toi, tu nous as aimés, tu t'es donné pour nous. Tu as donné ta vie pour nous. Tu nous as aimés véritablement. Alors que cet amour soit au milieu de nous continuellement. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bonne semaine.